Bien, nous allons encore une fois ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre, chapitre 22. Nous allons lire un très court passage ce matin. Nous allons lire la fin du verset 16 et le verset 17. Apocalypse 22. La deuxième partie, donc, du verset 16, et puis le verset 17. Et voici donc ce que nous lisons. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle au verset 16. « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. Dans cette dernière partie de l'Apocalypse, nous avons déjà vu la question de la véracité de la parole de Dieu. Que cette parole, non seulement le livre de l'Apocalypse, mais toute la parole est vraie à cause de son auteur, Dieu qui parle, à cause du moyen utilisé, l'inspiration de l'Esprit-Saint, à cause du messager souvent utilisé, l'ange, et à cause du témoignage de l'apôtre, un témoignage autorisé de l'apôtre Jean. Et nous avons vu que celui qui garde ses paroles, qui va s'appuyer sur cette parole, réagit comme Jean a réagi. Il va donner gloire à Dieu, même si Jean s'est d'abord trompé en tombant à genoux devant l'ange. Nous avons ensuite vu que le Seigneur Jésus-Christ a donné son dernier témoignage pour les églises par l'intermédiaire de l'ange. Il parle en tant que souverain, en tant que juge et en tant que sauveur. Et maintenant, il se tient devant nous et il se révèle, premier mot sur la feuille, il se révèle dans sa gloire et en tant que sauveur. Et il dit au verset 16, donc la dernière partie que nous avons lue, « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et l'Église et l'Épouse vont répondre, l'Église et l'Esprit, pardon, répondent à cela. Il l'appelle à venir et le Seigneur Jésus va dire au verset 20, « Oui, je viens. » Bientôt. Et Jean termine avec ces paroles, avec cette bénédiction, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Mais ce matin, nous allons nous focaliser sur les versets que nous avons lus. Il y a trois points. Tout d'abord, il y a une déclaration. Ensuite, il y a une réponse. Et ensuite, il y a une invitation. Tout d'abord, la déclaration. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit cela, il se déclare avec toute sa gloire comme le Messie qui a accompli, deuxième mot sur la feuille, qui a accompli le salut qui était tant attendu par le peuple de Dieu. Et la première partie de cette déclaration vient du livre d'Ésaïe, chapitre 11, et les 12 premiers versets. Dans ce chapitre, Ésaïe dit au verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Vous savez, Ésaïe, vous rappelez, était le père de David et Dieu avait promis à David un royaume éternel. Mais Jésus est en train de dire, « Maintenant, Ésaïe est en train de parler de moi. » Quand Ésaïe parle de rejeton, il souligne que c'est tout ce qui reste du tronc initial de la maison de David. Dieu avait donné toutes ces merveilleuses promesses à David, le royaume de David s'était étendu, mais le péché a détruit. Il ne reste que le tronc. Mais de ce tronc, il y a une promesse de salut. Et l'Ancien Testament se termine comme cela. Avec cette attente, cette attente de l'accomplissement de cette promesse. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il y a la vie, il y a le salut. Dans ce chapitre 11 d'Ésaïe, il y a encore un verset qui est souvent cité. « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. » Et ça, ça décrit tout simplement la paix, troisième mot sur la feuille, la paix de ce royaume. Et quand le Seigneur Jésus-Christ se tient devant nous, il déclare qu'il a tout accompli, tout ce qui était promis. Il reprend, on pense à Ésaïe, encore, Ésaïe 11, verset 9. « La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Et Jésus dit « Je suis le rejeton et la postérité de David. » Il est le Messie qui a accompli cette espérance. Il a accompli ce salut. Il est le rejeton et la postérité de David. Et la deuxième partie de cette déclaration, elle vient de la prophétie de Balaam, en Nombre 24. Balaam, vous vous rappelez, était un genre de chaman païen que Dieu va utiliser, non pas pour maudire le peuple d'Israël comme il voulait le faire, mais pour bénir le peuple d'Israël. Cela nous rappelle que Dieu règne souverainement même sur les ennemis du peuple, même sur les ennemis de son peuple. Et Balaam va prononcer une des grandes prophéties concernant le Messie. En Nombre 24, verset 17, nous lisons ceci, « Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Un astre sort de Jacob. Dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens, on n'avait pas de montre. Et on se référait aux étoiles pour connaître le moment de la journée ou de la nuit. Et les bergers observaient le changement des saisons, l'évolution de la nuit, par rapport en notant l'emplacement des étoiles. Et l'étoile brillante du matin annonce la fin de la nuit, annonce le commencement d'une nouvelle journée. Et l'image est très appropriée quand le Seigneur Jésus vient dans ce monde. Il est l'étoile brillante du matin. Il annonce ce royaume, quatrième mot sur la feuille. Il annonce, et quand il revient, il vient annoncer le jour éternel de gloire et de bénédiction pour son peuple. Et ce n'est pas seulement sur le plan émotionnel qu'il faut voir cela en disant « oui, c'est une belle image ». Mais c'est toute la signification de cela, de la doctrine qui est derrière cela. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire qui il est, ce qu'il a fait. Il est le Sauveur divin et il agit en sorte que sa paix règnera à la fin. Il est l'étoile brillante du matin. Sa venue déclare qu'il y aura un âge éternel de gloire, de paix, de bénédiction. Et c'est l'espérance du croyant. L'espérance de l'athée, c'est simplement une espérance dans une avancée froide du progrès scientifique. Il n'a rien d'autre. On va devenir meilleur, nous dit l'athée. On va devenir, on aura des gadgets qui seront plus performants, plus connectés, comme c'est le mot qui est souvent utilisé aujourd'hui. Mais c'est le seul espoir de l'athée. Le Seigneur Jésus-Christ lui parle d'une paix qui est éternelle, cinquième mot sur la feuille, qui découle de son œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. On pourrait comparer aussi avec les religions orientales, ces religions mystiques qui sont assez populaires sous différentes formes aujourd'hui. Mais la substance de ces religions dit ce que vous recherchez, c'est l'annihilation du soi. C'est se perdre pour flotter dans un nirvana sans douleur. Ce n'est pas le message, ce n'est pas l'espérance du croyant. La Bible affirme que le Fils de Dieu va se lever à la fin de l'histoire, va éclairer son peuple de sa gloire. Son peuple ne va pas se perdre, ne va pas flotter. Non, mais il va avoir la vie éternelle, il ne va pas se désintégrer, mais il va entrer dans la gloire, il sera entièrement renouvelé pour passer la vie éternelle, pour vivre l'éternité avec son Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ se tient et il dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Quelle est la réponse à une telle déclaration? Deuxième point, la réponse à cette déclaration. Et souvent, la réponse à une telle affirmation se traduit très bien dans des cantiques. Et je citerai le cantique 142 de « À toi la gloire », qui est son cantique qui s'intitule « Ô viens bientôt, Emmanuel ». Et le deuxième strophe dit ceci, « Ô viens bientôt, que ta clarté dissipe nos obscurités. Errant et triste dans la nuit, nous appelons le jour qui luit. Joyeux, levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. » Voilà le genre de réponse que produit une telle déclaration. Et c'est exactement ce qu'on a au verset 17. Tout d'abord, la première partie de ce verset 17. Pour savoir si on a saisi l'esprit du Seigneur, l'esprit du message du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, il faut voir si on réagit comme l'esprit et l'épouse réagissent. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Voilà la réponse de ceux qui ont vu l'étoile brillante du matin, le Seigneur Jésus-Christ. L'épouse, bien entendu, est l'Église, sixième mot sur la feuille. Dans ce monde, l'Église est fiancée au Seigneur Jésus-Christ. Elle est promise, elle possède le statut légal d'épouse de Christ. Mais elle n'est pas encore entrée dans la maison de l'époux. Il n'y a pas encore eu le banquet, les noces. Mais l'Église appelle, viens. Elle appelle son époux, viens. Elle a hâte, l'Église a hâte d'être à la fin de l'histoire, de pouvoir être unie à son époux, le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit ici, bien entendu, est le Saint-Esprit. Il parle par et avec l'Église. Et il appelle le Seigneur Jésus. C'est l'Esprit qui agit au milieu du peuple de Dieu, ce peuple qui adore le Seigneur Jésus-Christ, dans lequel l'Esprit est à l'œuvre. Et l'Esprit et l'Église appellent, viens. Jésus vient de se révéler comme le Messie de la ligne de David, l'étoile brillante du matin. Sa venue annonce un jour nouveau. L'Église dit oui, viens, viens Seigneur, viens maintenant. Et le Seigneur répondra au verset 20, « Oui, je viens bientôt. » Mais si on connaît bien les écrits de Jean, que ce soit son évangile ou ses lettres ou ce livre de l'Apocalypse, on ne va pas être surpris. Quand l'Esprit parle par et avec l'Église, comme c'est le cas ici, il y a toujours une exaltation du Seigneur Jésus-Christ, septième mot sur la feuille. Il y a toujours une exaltation du Seigneur Jésus-Christ. C'est une question que l'on peut se poser soi-même ou que l'on peut se poser autour de nous. Comment savoir si l'Esprit Saint est à l'œuvre en moi, en nous, dans une assemblée? Si l'Esprit de Dieu œuvre dans ma vie ou dans l'Église? Si l'Esprit de Dieu s'exprime dans nos vies, dans ma vie ou dans la vie de l'Église, alors le Seigneur Jésus-Christ sera exalté. Tant dans sa personne que dans ses œuvres. Et on peut penser à plusieurs passages. On pense à Jean 14 et 15 et 16. Le Seigneur Jésus-Christ est avec ses disciples dans la chambre haute la veille de sa crucifixion. Et il leur parle de cette provision qu'il a préparée pour eux. Il va leur envoyer un autre consolateur, l'Esprit Saint. Jean 16, verset 14, Jésus dit ceci, il, parlant de l'Esprit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La marque d'une Église qui est conduite, qui est habitée par l'Esprit Saint, c'est l'exaltation du Seigneur Jésus-Christ, accompagnée d'une obéissance à sa parole. Le ministère de l'Esprit Saint est de diriger la lumière sur le Seigneur Jésus, 8e mot sur la feuille. Il dirige la lumière. Beaucoup aujourd'hui cherchent une expérience. Ils se retrouvent dans un lieu pour passer un bon moment qui va les aider à tenir pour la semaine. Mais il n'y a pas de vie de disciple. Il n'y a pas de foi dans l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il n'y a pas d'enseignement de la parole. Non, ils veulent l'Esprit. Ils veulent la puissance. Pour une illustration, au Port-Villiers, à Chalon, il y a la statue de Nicéphore Niépce. Et la nuit, Nicéphore Niépce, l'inventeur de la photographie, la nuit, cette statue est éclairée. Mais si je vais au Port-Villiers et au lieu de regarder la statue qui est éclairée, je me tourne vers le projecteur, je ne vais pas admirer ce qui est normalement devant moi. Je vais être ébloui et je ne vais pas voir ce que le projecteur veut mettre en avant. Et c'est la même chose. Au lieu de regarder le Seigneur Jésus que l'Esprit vient éclairer, ces personnes qui recherchent l'Esprit vont être éblouies parce qu'elles regardent la lumière et non ce que l'Esprit éclaire, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. L'Esprit dit à l'épouse, regarde-le, regarde le Seigneur, regarde le Sauveur, vois sa gloire, écoute-le, entends sa parole, va à lui, reçois la vie, apprends à le connaître, découvre la joie qui découle de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Quand l'Esprit est avec l'épouse, l'épouse dit au Seigneur, avec l'Esprit, viens, viens. Cela nous indique aussi certaines choses concernant notre croissance dans la grâce. Comment savoir si je grandis? Christ a plus d'importance pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ devient plus important. Ma vie de disciple devient plus réelle, plus biblique. Christ est exalté dans mes pensées, dans mes désirs. Je veux le connaître davantage. Je veux le servir encore mieux. Ma croissance exalte le Seigneur Jésus-Christ. Parce que plus je lis la Bible, plus je découvre la vérité. Et je ne me sens pas mieux à mon sujet. Au contraire, je me sens plus mal. Le chrétien qui grandit ne grandit pas dans un orgueil, mais dans l'humilité, parce qu'il réalise quel genre de pécheur il est. Il prend de plus en plus conscience de la grandeur de Dieu, de sa sainteté, qui ne peut pas laisser le péché impuni. Mais il découvre aussi la grandeur et la merveille du Sauveur et du salut qu'il a accompli. De la grâce de Dieu qui devient de plus en plus grande à ses yeux. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ devient plus précieux. Ce sang qui nous couvre, qui nous lave de nos péchés. Mais le chrétien qui grandit réalise que c'est aussi le message que le monde a besoin d'entendre. Que le monde a besoin d'entendre cette bonne nouvelle, cet évangile dont nous avons parlé tout à l'heure avec les enfants. De voir, il réalise, et comme nous l'avons vu dans notre étude de l'Apocalypse, il prend conscience de la réalité de ce monde dans lequel nous vivons. Ce monde n'est pas Disney World, comme à Paris, un lieu où on va s'amuser et on va réaliser tous nos rêves. Non, ce monde est un champ de bataille, où la bête est opposée contre l'agneau et contre son peuple, où la prostituée Babylone est en train de séduire les gens pour les détruire. Et le croyant qui grandit prend conscience de ces choses Et plus il grandit, plus il va crier, Seigneur Jésus, viens, viens. Quel est notre espoir pour l'avenir? Notre espoir n'est pas dans les politiques. Notre espoir est dans cette réalité que le Seigneur Jésus-Christ revient, deuxième mot sur la feuille. Il revient et ce sera pour la victoire. S'il est, il est notre glorieuse espérance. La deuxième partie du verset s'adresse aux incroyants qui peuvent être au milieu d'une assemblée ou qui sont tout simplement dans le monde autour de nous. Jean écrit que celui qui entend dise « Viens ». Celui qui entend l'Évangile devrait répondre par la foi en appelant le Seigneur Jésus-Christ, en disant « Viens, Seigneur ». C'est assez significatif ici que l'on voit à la fin de l'Évangile, et à la fin de l'Apocalypse et à la fin de la Bible. On voit le Seigneur Jésus-Christ plein de miséricorde qui invite les pécheurs à venir à lui. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et c'est remarquable. Après tout ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, on a vu le Seigneur Jésus-Christ combattre ce monde. On a vu désarmant le monde, déjouer ses pièges, jugeant ce monde. On l'a vu défendant son peuple des attaques de la bête et de la prostituée. On l'a vu à la fin, il va juger ce monde. Il va juger la bête, il va juger la prostituée, il va juger tous ceux qui l'ont suivi. Et on pourrait s'attendre à voir le livre se terminer avec ces paroles, « Je vais les avoir, vous qui êtes mes ennemis, je vais vous avoir. » Mais on trouve exactement le contraire. On trouve la compassion et la miséricorde, dixième mot sur la feuille, la miséricorde du Fils de Dieu qui s'adresse à ceux qui sont rebelles, à ceux qui ont prononcé son nom en vain, à ceux qui ont péché contre Dieu. Et il offre le salut à celui qui a soif, que celui qui a soif vienne. Mais tout cela, bien sûr, correspond à tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ tout au long de sa vie. En particulier quand on lit au sujet de sa crucifixion. Quelle a été la première chose que Jésus a faite quand il a été crucifié? Il n'a pas maudit ses ennemis. Il n'a pas maudit ceux qui le mettaient à mort. Non, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Et l'un des malfaiteurs qui était aux côtés du Seigneur Jésus, il a crié au Seigneur pour être sauvé. Jésus était plus que prêt pour répondre à cet appel, pour répondre à cette requête, pour sauver ce malheureux. Il le dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu serais avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. En dépit de ces souffrances horribles sur la croix, le Seigneur Jésus était encore là, se donnant la tâche de l'évangéliste, offrant et appelant les hommes à venir à lui. Et après être monté au ciel, le Seigneur envoie son Église. Mais où vont ses disciples? Ils vont auprès des Juifs, ils vont auprès de ses chefs religieux, de ceux qui ont mis à mort le Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont avec eux, ils vont vers eux avec le message de l'Évangile. Repentez-vous, soyez réconciliés avec Dieu, que vos péchés soient lavés. Et voilà le Sauveur qui parle et qui parle encore aujourd'hui. L'Esprit et l'Épouse disent, viens Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne vient pas maintenant? Pour que nous puissions entendre l'Évangile encore aujourd'hui. Pour que nous puissions encore répondre à cet appel de venir à lui. Pour que le dernier qui est appelé à la foi vienne à croire et que tout le troupeau soit réuni, que toute la moisson soit rentrée. Alors là, le Seigneur viendra. On entend l'Évangile encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche de dire au Seigneur Jésus, viens? Qu'est-ce qui nous empêche de dire au Seigneur Jésus, viens dans ma vie? On a dit tout à l'heure que l'Église qui est habitée, qui est dirigée par l'Esprit Saint, est une Église où Christ est exalté, mais c'est aussi une Église qui est passionnée par l'annonce de l'Évangile. 11e mot sur la feuille. Qui veut être un témoin dans ce monde de ténèbres de toutes les manières possibles, que ce soit par le témoignage personnel ou par la prédication, par les moyens que nous avons, les moyens modernes de répandre cette bonne nouvelle, la littérature, la radio, l'Internet, par le soutien d'ouvriers de par le monde, par nos prières. Si nous ne pouvons pas faire les autres, nous pouvons au moins prier. Mais c'est ce qui est remarquable. Nous avons déjà dit que l'Apocalypse nous montre que ce monde est opposé à l'Église. Il est en guerre contre l'Église de Jésus-Christ. Nous avons plusieurs exhortations à persévérer, à tenir ferme contre les séductions de ce monde, contre les attaques de ce monde. Nous sommes aussi appelés à ressembler au Seigneur Jésus-Christ et à aller vers ce monde. Aller vers ce monde avec ce message, être rempli de compassion, comme le Seigneur Jésus-Christ l'était. Être rempli de compassion pour ce monde perdu. Et cela nous amène donc au troisième point, l'invitation. Le verset 17 conclut avec cette belle image, cette grande image, cette grande déclaration de l'Évangile, cette invitation à prendre, 12e mot sur la feuille, à prendre de l'eau de la vie. Et c'est un thème qui couvre toute la Bible. Et, Wayne a fait allusion tout à l'heure dans sa présidence. Si on remonte à Genèse, il y avait à Genèse un cours d'eau qui venait arroser le jardin d'Éden. Et ce cours d'eau se termine ici à la fin de l'Apocalypse. Ce cours d'eau contient la puissance de vie qui vient de Dieu pour tous ceux qui croient. C'est au sujet de ce cours d'eau que David a pu écrire dans le psaume 46. On se rappelle, on l'avait cité, qu'il n'y a pas de cours d'eau dans la Jérusalem physique. Mais David écrit en psaume 46, verset 5, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Il parle de l'Évangile. Il parle de la grâce du Seigneur Jésus qui coule par sa parole, par la puissance de l'Esprit. Mais David n'était pas le seul, il y a aussi Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 47, passage que nous avons vu, qui parle de ce cours d'eau qui sort du temple pour arroser une terre aride, une terre qui est marquée par le péché. Et ce cours d'eau va apporter pureté et vie. Ésaïe, attendez ce jour, Ésaïe 12, verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Mais les écrits de l'apôtre Jean, en particulier, sont remplis de cette image de l'eau de la vie. Au début de son évangile, au chapitre 2, Jean rapporte le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ, la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Quand on pense aux noces, on pense à quelque chose de festif, de joyeux. Et c'est ce qui est derrière l'invitation de venir à Christ, de prendre cette eau, parce qu'il donne la vie, il donne le bonheur, la joie. Et quand nous avons étudié ce passage, nous avons vu que Jean faisait le contraste entre la religion des œuvres et la vraie foi. L'eau que Jésus a utilisée provenait des vases qui étaient utilisé pour la purification cérémonielle, mais le Seigneur Jésus-Christ ne nous invite pas à un formalisme, à une religion simplement extérieure. Non, il nous invite à venir à lui. Et il change l'eau en vin. Et il apporte la joie et le bonheur. En Jean 4, passage cité tout à l'heure, Jésus se rend en Samarie. Il va s'asseoir au pied du puits de Jacob pour rencontrer cette femme pécheresse. Et qu'est-ce qu'il lui offre? Jean 4, verset 10, il lui offre de l'eau, qu'il offre est de l'eau vive. Et il poursuit au verset 14, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il parle de la vie éternelle. Et cette femme a cru, elle a reçu ce don. En Jean chapitre 7, pendant la fête des tabernacles, Jésus est allé au temple et il a crié. Et cette offre, au verset 37 et 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il parlait là de l'Esprit Saint qui venait, qui allait habiter dans les cœurs. Et en Jean 19, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, son corps est encore sur la croix. Un soldat vient percer le côté avec sa lance, et du sang et de l'eau coulèrent. Jean 19, verset 34. Tout comme Moïse avait frappé le rocher dans le désert, et de l'eau est arrivée au peuple d'Israël, qui a permis au peuple de vivre, le salut coule à travers les blessures du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces images nous décrivent toutes les bénédictions spirituelles que l'on reçoit par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. On peut dire trois choses au sujet de cette eau. Tout d'abord, si c'est de l'eau de la vie, 13e mot sur la feuille, cela veut dire que les hommes sont morts. Ça veut dire que ces personnes sont mortes. Et nous le savons, en dehors du salut qu'apporte le Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ceux qui sont en dehors du Seigneur Jésus-Christ sont sous la malédiction de la mort. Et pas seulement la menace de la mort lors du jugement. Non, mais ils connaissent la mort spirituelle dès maintenant. Dès aujourd'hui, ils sont spirituellement morts. Et le Seigneur Jésus-Christ offre sa propre mort pour ôter la malédiction de Dieu, pour réconcilier le pécheur qui vient à lui par la foi. Deuxièmement, cette eau de la vie offre une satisfaction spirituelle dès aujourd'hui, dès maintenant, dès aujourd'hui, 14e mot sur la feuille. Quand il fait très chaud, on apprécie un verre d'eau bien fraîche qui vient nous rafraîchir, qui vient nous faire du bien. Et Jésus parle ici de la satisfaction qu'il apporte dès aujourd'hui. La vie chrétienne, ce n'est pas suivre un ensemble de lois. Non, c'est avoir cette eau vive qui coule en nous abondamment, qui nous apporte la justice, qui nous apporte la paix, la joie. Bien sûr, Dieu va nous transformer pour que nous vivions pour lui plaire. Mais l'Esprit Saint vient habiter en celui qui est réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. L'Esprit Saint que les gens recherchent, que beaucoup de gens recherchent, mais ils ne le trouveront pas en dehors de Christ. Mais il donne cette eau vive qui apporte une satisfaction spirituelle dès aujourd'hui. Mais troisièmement, si l'eau vive apporte une satisfaction dès aujourd'hui, elle apportera une satisfaction encore plus grande dans l'éternité. 15e mot sur la feuille. Dans la mort, la résurrection et la nouvelle Jérusalem. Nous l'avons vu au début du chapitre 22, versets 1 et 2. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà l'offre. Voilà l'offre, la vie éternelle, la délivrance de la mort et du péché, de la culpabilité du péché, du pouvoir du péché, le don de toutes ces bénédictions après lesquelles notre âme assoiffée languissait. Voilà le don, une satisfaction éternelle. Voilà l'eau de la vie que le Seigneur Jésus-Christ offre. C'est une offre qui ne peut pas se refuser. Il suffit de venir, de prendre de cette eau. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Tout d'abord, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à ceux qui ont soif, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde a soif. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour vivre en communion avec lui. Mais cette relation a été brisée par le péché. Et l'homme cherche à remplacer par toutes sortes de choses, mais rien ne le satisfait réellement. 16e mot sur la feuille. Rien ne le satisfait. Il va mettre toute son énergie dans le sport. puis il se blesse, ou il avance en âge, il ne peut plus pratiquer le sport. Il va se mettre toute son énergie dans les jeux, dans le plaisir ou dans le travail. Et puis vient une crise quelconque et il n'est pas satisfait. Et il va se jeter son âme dans une cause politique ou dans la défense de l'environnement ou dans la cause animale. Mais ses besoins les plus profonds ne trouvent pas de satisfaction et ne trouvent pas de réponse. L'homme a soif. Mais il ne vient pas à la source. Seul Jésus donne la vie. Il donne la vraie vie. Ici, on appelle cela l'appel général qui est lancé à tous les hommes. Que celui qui a soif vienne. C'est l'appel qui est lancé à tous de venir à Christ. Puis le Seigneur Jésus-Christ s'adresse ensuite à celui qui veut. Celui qui a le désir de venir, et là on parlerait de l'appel spécifique de l'Évangile. Et seul le Seigneur Jésus-Christ peut appeler de cette manière. Il donne, 17e mot sur la feuille, il donne le désir et la capacité de venir à lui pour être sauvé. Nous savons très bien que le problème, c'est que l'homme ne choisit pas de venir à Jésus. Il est spirituellement mort. Il ne peut pas répondre à l'offre de l'Évangile. Il ne peut pas. L'homme ne veut pas s'humilier pour boire de cette eau de la vie. Non, il faut qu'il y ait cette œuvre spéciale de la grâce de Dieu pour amener cette âme assoiffée à la source, au Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui veut, dans le cœur duquel Dieu est déjà à l'œuvre, que celui qui veut prenne, qu'il vienne à Christ. Mais il y a une condition. Le salut que Jésus offre est gratuit. 18e mot sur la feuille. Il est gratuit. Nous n'avons rien qui pourrait acheter ce salut. Nos soi-disant bonnes œuvres sont toutes corrompues par le péché. Le Seigneur, Dieu n'acceptera jamais ce que nous pourrions lui apporter. Il n'acceptera jamais pour acheter sa justice. Notre argent, nos œuvres, ou même notre vie religieuse, tout cela est pollué par le péché. Tout cela est condamné aux yeux de Dieu. Le Seigneur se tient ici. Et il offre le salut par la grâce. Un salut par la grâce seul, un salut gratuit. Pour reprendre les mots d'Ésaïe 55, verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Parce que c'est Christ qui a payé le prix. C'est Christ qui a payé. C'est lui qui a accompli le salut par ses œuvres, par son obéissance, par sa mort. Et nous sommes appelés à le recevoir comme un don gratuit par la foi. Toute la gloire lui revient. Elle lui revient à lui et non pas à nous. Le salut, cette eau de la vie, est gratuit. Mais l'invitation de venir et de prendre de cette eau de la vie gratuitement, l'invitation est urgente. 19e mot sur la feuille. L'invitation est urgente. L'esprit et l'épouse crient, viens. Le Seigneur Jésus répond, oui, je viens bientôt. Il est urgent de venir au Sauveur, de prendre de cette eau gratuitement. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Et comme il l'a dit à plusieurs reprises, il a utilisé les images d'un voleur qui vient dans la nuit, le voleur qui n'annonce pas. Il n'annonce pas, je vais venir dans une demi-heure ou dans une heure. Il vient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est donc urgent. Urgent de venir à Christ, de venir au Sauveur et de prendre de cette eau de la vie gratuitement. Une déclaration Seigneur Jésus se présente comme le Messie qui a accompli ce salut, qui a accompli ce salut qui était attendu depuis toujours. La réponse par la foi est de dire viens. Viens Seigneur. Viens aujourd'hui dans ma vie, mais viens aussi prendre ton peuple pour être avec toi dans la gloire. Viens Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit et l'Épouse disent viens. Et le Seigneur Jésus-Christ répond oui, je viens bientôt. Ne laissons pas cette invitation sans réponse de notre part. La réponse, l'invitation et la réponse que l'invitation demande est urgente. Venons à Christ dans la foi. Prenons de cette eau, buvons de cette eau et appelons son retour pour être, pour que nous soyons avec lui, pour vivre avec lui dans la gloire et le servir pour toujours. Que Dieu donc bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.